Chapitre 31. Marty appelle une deuxième fois.
« Plus tu nous fais attendre, plus on fera durer tes souffrances !»
Frank ouvre la bouche pour se manifester, mais elle lui colle le calibre 38 sur le nez, le regarde en haussant les sourcils. Il referme la bouche. À en juger par la puissance du faisceau des phares, le volume de la voix de Marty et les rares bruits de pas qu'elle entend tandis qu'il se déplace ça et là, elle devine qu'ils sont assez près d'elle, peut-être une quinzaine de mètres. Elle a compté 4 portières qui se sont ouvertes et refermées, ce qui signifie qu'ils sont au moins 4, éventuellement 6, s'ils se sont entassés dans la bagnole. Mais ils auraient davantage risqué d'attirer l'attention, et Marty n'est pas du genre à attirer l'attention. Donc, 4. Elle les entend se déployer, des pas à des distances variables sur la terre de la place d'armes. Et il y en a un qui se rapproche nettement. Elle met Frank debout sur son bon pied et le pousse vers l'entrée. Les pas à l'extérieur du local s'arrêtent. Elle en déduit que le type peut les entendre. Mary Pat franchit le seuil, son revolver sur le cou de Frank Toomey. Brian Shay, pris par surprise, à 1 mètre de Mary Pat, veut lever son arme. « Non, non, non !» dit Mary Pat. Brian jette un coup d'œil à Frank Toomey, la jambe abîmée, la veste gorgée de sang et fixée par du ruban adhésif autour de sa taille ensanglantée, et abaisse son pistolet. « Laisse-le tomber par terre !» dit Mary Pat. « Je ne le répéterai pas. » Il la regarde dans les yeux. Regarde dans ceux de Frank. Laisse tomber son arme. Les 3 autres sont disposés en arc de cercle, une dizaine de mètres derrière Brian. Larry Foyle est le plus éloigné et occupe l'extrémité gauche de l'arc de cercle. Marty se tient au centre, comme une dent cariée dans un sourire hideux, tandis que Weeds rôde sur le côté droit. Ils tiennent tous un pistolet mollement contre leur flanc.
« Tu vas bien, Frank ?» demande Marty. « Pas vraiment, Marty !» répond Frank. « On va te faire rafistoler comme il faut !» « Je sais que tu vas t'en occuper, Marty. Merci !»«
T'en es sûr ?» dit Mary Pat. Elle appuie sur la détente. La balle creuse un tunnel qui transperce le cou de Frank Toomey de part en part. Pour des hommes habitués à une violence banalisée, aucun d'eux ne semble avoir été prêt à vivre cet instant. Larry et Weeds paraissent tétanisés, la bouche ouverte. Marty hurle
« Non !»
comme s'il avait le cœur brisé pour la première fois de sa vie. Brian Shay tend la main pour ramasser son pistolet. Frank s'écroule au sol, sa carcasse n'étant plus qu'un paquet d'organes inutiles, son âme déjà à mi-chemin de l'enfer. Mary Pat tire et touche Brian quelque part au milieu de son corps, et elle l'entend pousser un hurlement. Marty lève son pistolet quand elle fait feu sur lui. Bang, bang, bang! Elle ne sait pas si elle l'a atteint. Seulement qu'il n'est plus là, tandis que les 2 autres ripostent, les balles frappant la partie supérieure du mur derrière elle, car Larry et Weeds courent se mettre à l'abri derrière la voiture et ils tirent sans vraiment viser. Elle attrape Brian Shay par l'arrière de son col. Il se cambre et martèle le sol de ses talons. Il pousse des jappements et des glapissements. Elle reste accroupie et place le corps de Brian devant elle du mieux qu'elle peut, puis elle le tire dans la salle avec elle. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, il l'enlace au niveau des genoux et lui enfonce sa tête dans le ventre. Elle lui donne des coups sur les oreilles, son gros calibre 38 dans une de ses mains, et il la lâche. Elle le pousse dans le coin et le tabasse à coups de pied. Littéralement. Elle s'acharne sur lui, furieusement, méchamment, aveuglément. Elle ne s'arrête que longtemps après avoir acquis la certitude qu'il ne présente plus aucun danger. « Il n'y a donc que ça que vous comprenez, bande d'enculés !» siffle-t-elle. « Ça et rien d'autre !» Il se recroqueville sur lui-même. Elle lui laisse 1 minute, au cas où il vomirait. Puis elle se place derrière lui et le tire contre elle, le cale entre ses cuisses et accroche ses jambes à celles de Brian. Elle jette le calibre 38, désormais vide, et cherche dans son sac à main le calibre 45 de Frank. Elle le sort, enlève la sécurité, pose le chargeur supplémentaire sur le sol en terre battue près d'elle. Il n'y a pas d'issue pour elle, mais il n'y a qu'une entrée dans la pièce. Il leur faut passer la tête par l'ouverture s'ils veulent l'atteindre. Elle maintient Brian devant elle et pointe le calibre 45 vers le seuil.
Putain ! Tu l'as tué comme ça !
Dit Brian au bout d'un moment, comme s'il n'arrivait pas à comprendre la tragédie de la mort de Tombstone, Frank Toomey. Comme s'il venait de perdre toutes les illusions qu'il avait gardées sur l'existence d'un monde plus doux. Et comment ?
Et tu m'as bousillé la hanche !
Eh ben, si t'arrives à sortir vivant d'ici, Brian, tu clopineras salement. Mais t'auras une bonne histoire à raconter. À l'extérieur, elle entend des raclements sur le sol. À en juger d'après la distance, elle suppose qu'ils sont près de la voiture.
Mais putain, tu l'as tué juste comme ça.
Pourquoi? Ça te choque? Vous tuez des gens tout le temps.
Nous, réplique-t-il. Pas toi.
Là-bas, au-delà de l'entrée, quelqu'un ouvre le coffre de la voiture. Elle passe le bras autour de l'abdomen de Brian et pose le canon du gros calibre 45 sur son bas-ventre.
« Mais qu'est-ce que tu fous ?
Est-ce que tu étais présent quand ma fille a été tuée ?» lui murmure-t-elle dans l'oreille.
« J'étais pas là !»
répond-il sur un ton las.
« On m'a appelé après !»
Elle entend un bruit sourd sur le sol dehors, suivi d'un claquement de métal contre du métal. Pour regarder, il faudrait qu'elle écarte Brian et qu'elle passe la tête à l'ouverture, prenant le risque de se la faire exploser par une balle. Alors, elle les laisse faire tranquillement, merci bien. Mais elle reconnaît que ça l'intrigue.
« Qui était là quand ma fille a été tuée ? »
demande-t-elle à Brian.
« Frank. » Marty était dans une autre pièce.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai entendu dire que Frankie et elle se disputaient. Elle a continué à le provoquer. Il a sorti un couteau et... Tu sais...
Tu sais... répète-t-elle amèrement.
Ouais.
Elle éloigne le pistolet de son bas-ventre. Dehors, encore des raclements de pieds. Encore du métal qui frotte sur du métal, puis la voix de Marty.
« Attrape le trépied !»
Le trépied ? Brian souffle bruyamment par les narines. Elle suppose que c'est sa façon d'essayer de gérer sa douleur.
« Tu te souviens, au lycée ? »
commence-t-il.
« La deuxième année, quand on a... »«
C'est parti ! Souvenir, souvenir !» Il a un petit rire.
Non, non, c'était drôle. Dans les toilettes des profs, on avait mis plein de...
Pétards, dit-elle. Ouais, je m'en souviens.
On s'est bien marré à cette époque-là.
C'est sûr. Tu penses que ça va me sauver ? Il ne répond pas. Elle hoche la tête.
Alors pourquoi ça devrait te sauver, toi ?
Le visage de Brian se vide de nouveau de toute expression.
Marty ne peut pas te laisser la vie sauve maintenant. Il aimait Frank comme un frère.
Comme un frère, tu dis ?
Ouais, quoi d'autre ?
Cette façon dont il a hurlé quand j'ai tué Frank. À toi de me dire ?
Il réfléchit, puis la panique se lit sur son visage. T'es malade !
Il crache sur le mur en face de lui.
« Une foutue dépravée !»
Elle rit. « Vous inondez notre communauté d'héroïnes. Vous louez des femmes et vous leur demandez de baiser avec des inconnus pour du fric. Vous agressez des enfants, vous transformez d'autres enfants et vous les rendez encore pires que vous. Vous volez, vous tuez. Mais c'est moi qui suis malade. C'est moi qui suis dépravée. Oh. Ok, Brian. » De quelque part, dans l'obscurité, Marty appelle
« Mary Pat ! Mon petit !
Marty, mon petit !»
réplique-t-elle. Le gloussement de Marty lui parvient, porté par la brise.
« Laisse partir, mon ami Brian, et nous te laisserons partir d'ici !»«
Non, vous ne me laisserez pas partir !»
L'espace d'un moment, le seul bruit est celui de la nuit.
« Non, j'imagine qu'on ne te laissera pas !»
Un autre gloussement.
« Je peux te demander quelque chose ?»«
Bien sûr !»«
C'était beaucoup d'argent, ce que je t'ai donné !»«
C'est vrai !»
Pourquoi tu n'es pas tout simplement parti quelque part avec ?
Pour faire quoi ?
Te faire une vie meilleure.
Cette vie meilleure, je l'avais, Franck l'a détruite.
Mais pas moi,
dit-il sur un ton tout innocent et candide.
Et pourtant, tu t'en es prise à toute mon organisation.
Ah, Marty, dit-elle. Ah, Marty.
Quoi, Mary Pat ?
C'est tout toi, ça.
Toute cette laideur écœurante. Tu en es l'esclave autant que le maître. Je te suis pas, là. De quoi suis-je l'esclave, mon petit ?
La peur.
La peur ?
s'esclave-t-il.
Et de quoi je pourrais avoir peur, Mary Pat ?
Putain, Marty ! Ça... C'est une affaire entre Dieu et toi. Mais je suis sûre que la liste est longue et affligeante.
Un silence s'ensuit pendant un bon moment. Elle entend l'eau au loin clapoter doucement sur le rivage. Marty demande
« Est-ce que tu sais ce que je faisais pendant la guerre, ma chérie ?»
Quoi qu'il doive arriver, Mary Pat sait que cela ne va pas tarder. « Non, Marty, je sais pas.
J'étais tireur. »
lance-t-il.
Plus précisément, j'étais un sniper.
Elle entend la détonation seulement une fois que la balle s'effrayait un passage à travers l'os et la chair de son aisselle droite. Elle pivote immédiatement par la force d'un instinct de survie aussi vieux que son corps lui-même et la balle suivante transforme le visage de Brian Shay en tarte aux cerises. Il n'émet aucun son. Il est probablement mort sans s'en rendre compte. Elle se précipite à quatre pattes dans le coin de la pièce et à présent, les armes de poing se mettent à tirer. Et sous ses yeux, deux autres balles touchent le corps de Brian Shay. Une lui perfore la poitrine, l'autre fait éclater sa rotule droite.
« Cessez le feu !»
crie Marty. Larry et Weeds arrêtent de tirer, mais les oreilles de Mary Pat continuent à tinter. Marty l'appelle de nouveau.
« Est-ce que tu sais ce que tu viens de recevoir, ma chérie ?»
Elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas respirer. Tous ses organes internes se sont bloqués, comme si une énorme main froide lui comprimait le cœur de toutes ses forces.
« C'était une balle blindée de 7,62 mm. Ça part à une vitesse de près de 2000 km/h, Mary Pat. Une fois que l'effet du choc et l'adrénaline vont se dissiper, ce qui devrait pas tarder, ton corps va commencer à réagir aux dégâts. Je suppose que ta respiration va devenir difficile. Ton sang va se refroidir. Tu vas avoir du mal à parler et à penser. Mais je voudrais que tu restes allongé là et que t'essaies. Je voudrais que tu penses à toutes les erreurs que tu as commises. D'abord et surtout à ce total manque de respect dont tu as fait preuve à l'égard de ma générosité et de mon amitié. Je veux que tu réfléchisses bien à tout ça,
dit Marty.
Parce que je vais pas t'achever. Je vais m'asseoir, fumer tranquillement une cigarette, profiter de la douceur de la nuit en attendant que tu te vides de ton sang, espèce de pauvre conne.
L'arrière-gorge de Mary Pat se remplit subitement de mucosité chaude. Elle tousse pour les faire remonter et s'aperçoit que ce ne sont pas des mucosités du tout. C'est du sang. Ah, merde. Dès l'instant où Marty lui a tendu cette sacoche pleine d'argent,
Elle a su qu'elle ne s'arrêterait pas tant que tous ceux qui ont été impliqués dans la mort de sa fille n'auraient pas répondu de leur crime. Elle n'est pas parvenue à atteindre Marty lui-même, et c'est bien dommage. Mais c'est difficile d'atteindre le roi. Cela a toujours été difficile d'atteindre un roi. Mais bon sang, elle a quand même réussi à foutre un sacré bordel à la cour du roi. Et maintenant, il lui dit de rester étendu ici, de se vider de son sang, d'attendre les rats. Ce sera chouette de revoir Dyuki, même si elle se languira tout le temps de Kenfen. Peut-être qu'ils pourront boire quelques bières et se souvenir de tous les bons moments qu'ils ont passés ensemble au début de leur mariage. « Dis, Marty !» lance-t-elle, s'alarmant de la faiblesse de sa voix.
« Ouais, ma chérie !»
Elle se relève, la pièce se met à tourner et elle s'effondre sur le côté contre le mur.
« Comment ? T'as pu t'imaginer ?»
Elle se maintient debout. Elle a l'impression que quelqu'un a plongé ses poumons dans de la colle. Et Noël, ça va pas être super de revoir son Noël?
Qu'est-ce que tu dis?
T'imaginer, reprend-elle, que je pourrais obéir aux ordres? Elle se colle tout contre le mur sur sa gauche, enjambe Brian Shay, dont le visage a disparu.
Je t'entends pas!
Crie Marty.
« Que je pourrais obéir aux ordres d'un dégonflé, d'un zéro comme toi ?»«
Je rentre à la maison, Jules. J'arrive, mon petit bébé. » Elle s'avance sur le seuil du local dans le demi-clair de lune et lève son pistolet. Elle parvient à tirer une balle, peut-être même deux, avant qu'il ne riposte.